Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue dans la Marche des Sciences. On part aujourd'hui à la rencontre des grands singes. Depuis l'Antiquité, les hommes se sont intéressés à ces singes, captivants et effrayants à la fois, au comportement étrangement ressemblant au nôtre. Dès lors, un lien s'est tissé entre eux et nous, marqué par une oscillation permanente entre fascination et répulsion. C'est là une véritable histoire de nos représentations collectives qui en dit long sur les caractéristiques propres de l'homme et le devenir humain des grands singes. Il fallut du temps à la communauté savante pour cerner les différentes familles de singes et leurs spécificités, pour comprendre leur fonctionnement, mode de vie, caractère. Du temps, des expériences, des études de terrain et de laboratoire, des approches scientifiques et humaines au fil de siècles teintées de sentiments variés et fluctuants à l'égard de ces anthropoïdes. Et aujourd'hui, où en sommes-nous de cette ouverture commune au monde entre hommes et singes ? À l'occasion de la parution concomitante de livres sur ce thème, signe d'un nouveau pas franchi peut-être, nous en parlons aujourd'hui dans la Marche des Sciences sur France Culture avec nos deux invités, deux femmes, Chris Hersfeld, philosophe des sciences, artiste et spécialiste de l'histoire de la primatologie et des relations entre humains et grands singes, et elle est l'auteur de deux livres parus cette année, Petite histoire des grands singes, édité au Seuil dans la collection Sciences Ouvertes, et le dernier sorti, Watana, un orang-outan à Paris, paru aux éditions Payot. Et à ses côtés, Florence Perroux, responsable conservation et pédagogie au zoo de La Palmyre. Elle est auteure d'articles sur les gorilles dans des magazines professionnels internationaux et elle nous offre, avec le photographe Sébastien Mez, un très beau livre de photos et de commentaires intitulé « Gorilles, portraits intimes » paru aux éditions du Pommier. Et puis en seconde partie d'émission, vous en avez l'habitude, vers 14h48, place à la carte blanche de Catherine de Copé. Bonjour Chris Hersfeld.
Bonjour.
On profite de votre passage à Paris pour enregistrer cette émission avec vous, notamment parce que vous partagez votre vie entre les États-Unis et alors un petit peu la France.
Bruxelles et Paris. Et les États-Unis, notamment en Floride, où il y a beaucoup de sanctuaires pour les grands singes.
Alors, quand on évoque les grands singes, justement, on parle souvent du premier contact qui fait que l'on choisit de consacrer sa vie ou une partie de sa vie à ces animaux spécifiques. Pour vous, ce premier contact, c'était quand ?
Alors, le vrai premier contact, c'était en 1996. Au zoo d'Anvers, j'ai passé un mois avec une gorille de Groëri, c'est-à-dire c'est un sous-espèce de l'est de l'ex-Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. Cette femelle s'appelle Victoria, elle est toujours en vie, et j'ai voulu passer toutes mes journées avec elle, la découvrir, rester beaucoup de temps tout près d'elle, essayer de comprendre ce qu'elle vivait au quotidien. Et à ce moment-là, j'ai pas pu m'empêcher de sortir mon appareil photo et j'ai commencé des portraits de grands singes. Je trouvais que ça creusait encore la différence entre nous. Elle était enfermée, j'étais en liberté, mais il me semblait que ces portraits pouvaient porter témoignage de ce qu'ils sont et pas d'une manière, pas en les présentant comme des victimes, mais plutôt leur montrer leur dignité, leur beauté, leur grandeur.
Et alors vous, Florence Perroux, vous avez un poste de responsabilité au zoo de La Palmyre et donc avec votre conjoint, hein, donc Sébastien Mez, hein, on dit bien Mez.
Mez.
Vos premiers contacts vous ont poussé à concevoir ce très beau livre de photos, des portraits intimes plus précisément. Donc cette première intimité, vous l'avez vécue à quel moment ?
Donc en ce qui nous concerne, ça remonte à 2005, lors de l'arrivée donc d'une femelle au zoo de La Palmyre, qui a été transférée donc du zoo de Zurich, où elle est née, qui s'appelle Ibana, et qui est toujours au zoo. Et donc, cette rencontre avec elle, mais je dirais pas qu'avec elle aussi, avec la personne qui s'en occupait à Zurich, avec sa soigneuse. Comme on le dit dans le livre, c'est elle aussi qui nous a ouvert la porte sur ces animaux tout à fait fascinants. Et donc de ce premier regard échangé avec elle et de ce premier contact proche, effectivement est né un intérêt d'abord pour ces animaux-là en particulier. Et ensuite, cet intérêt s'est transformé en passion et en passion dévorante.
Jusqu'à aller sur le terrain, on va en parler dans d'autres pays. Pourquoi les gorilles spécifiquement, parmi les grands singes ?
Tous les primates m'intéressent, les grands singes évidemment, ils sont tout à fait particuliers, on aura sans doute le temps d'en parler. Les gorilles parce qu'ils sont à part pour moi, ils ont une personnalité plutôt en retrait, sont des animaux extrêmement sensibles, ils sont très différents du chimpanzé qui est très explosif, très dynamique, très dans la démonstration. L'orang-outan c'est encore différent, c'est un animal qui est très intériorisé, qu'on a du mal à percer, très fort aussi au niveau du regard, mais le gorille il est tout en subtilité par rapport, et ce qui est d'ailleurs très, très paradoxal puisque quand on le voit c'est le plus grand de tous les primates, donc c'est un primate qui impressionne les gens, qui leur fait peur parfois, et il est tout le contraire. Donc
avec des images souvent véhiculées d'ailleurs par le cinéma, hein, comme King Kong ou d'autres films.
Absolument. Et donc du coup, c'est ce qui fait aussi son charme et son intérêt, c'est de pouvoir creuser derrière et voir ce qu'il est en réalité, et une image totalement différente de ce que les gens peuvent penser.
Sachant que dans ce livre, il y a vraiment de très très belles photos, tout en noir et blanc, avec des regards, et vous nous expliquez quand même dans les commentaires que très difficile justement de soutenir les regards des gorilles, il ne faut pas chercher à le faire, parce qu'ils ont le sentiment d'être dominés, c'est ça ?
Alors, tout va dépendre quand même de l'individu et du contexte de la situation. On peut soutenir le regard d'un doigt argenté qui est tout à fait paisible dans son activité, comportement naturel, sans trop de problèmes. Après, voilà, ça dépend de l'histoire de l'individu, ça dépend du contexte de la situation. Est-ce qu'il est sous tension, est-ce qu'il ne l'est pas ? Mais il est clair que le regard est un élément important chez les gorilles, notamment chez les mâles adultes. Et donc, effectivement, le meilleur moyen de se faire accepter et bien voir, et tout simplement de ne pas trop insister et de savoir quand regarder et surtout comment regarder. Moi, je peux avoir un contact avec notre mâle reproducteur à 30 cm de la grille et le regarder dans les yeux sans que ça pose aucun problème, mais parce qu'à ce moment-là, il est bien, il est détendu. S'il est sous tension, évidemment, je n'irai pas chercher son regard de façon prolongée.
Donc, pas chercher à le provoquer quelque part. Hein. Chris Hersfeld, quand on parle de grands singes, donc il y a les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés, les bonobos, c'est ça ?
Absolument. Et moi, j'étudie ces quatre espèces. Je peux très bien comprendre ce que dit Florence. Et je suis très admirative de ce qu'elle vient de dire parce qu'on sent la praticienne. Ouais. Elle ne parle pas de manière théorique. Elle rencontre les gorilles. Elle est face à face avec eux. Et ce sont des observations très fines. Bon, moi, pour ma part, je suis philosophe des sciences, mais ça ne m'empêche pas d'aller sur le terrain. Et donc, je fais des expérimentations avec les grands singes. Notamment, j'ai pu montrer avec Watana que les singes étaient capables de faire des nœuds, alors que Jacques Vauclair, un des grands spécialistes de la cognition animale, soutenait encore qu'en 2000, qu'ils étaient incapables de faire des nœuds, qu'il s'agissait d'un propre de l'homme. Donc, j'ai donné des liens à Watana pour démontrer qu'elle était tout à fait capable de faire des nœuds, et même pas simplement des nœuds, mais des nœuds complexes, et de les utiliser dans des assemblages, par exemple. Donc, je fais des expérimentations, je fais des observations, mais je travaille aussi sur leur histoire. Et
une histoire
surtout
longue,
la question de l'éthologie.
On peut
remonter
dire
à l'Antiquité,
exactement,
puisque les gorilles sont déjà évoqués pendant l'Antiquité par Hannon.
Un amiral carthaginois.
Exactement. Et donc, je ne travaille que sur les quatre espèces de grands singes, même pas sur les gibbons, dont on parle comme grands singes soi-disant inférieurs, c'est comme cela qu'on les nommait anciennement. C'est évidemment parce qu'en tant que philosophe, ils sont très intéressants pour parler de quelque chose que Florence évoque dans son livre, c'est la question de la frontière homme-animal, que moi je récuse totalement comme une vision complètement dépassée. Et justement, ils interrogent, ils dissolvent cette frontière. Alors la difficulté, je ne sais pas si c'est bien d'en parler.
Ce qui peut effrayer l'homme, on va en parler au cours de l'émission.
Je pense qu'on y reviendra de
toute façon.
Mais en tout cas, c'est au moins de donner à comprendre que depuis l'Antiquité, effectivement, il y a ce regard et cette relation entre les hommes et les grands singes. Les explorateurs aussi ont joué un grand rôle, bien sûr, en les découvrant. Et puis, il y a des grandes dates quand même de la primatologie qu'il faut préciser d'emblée. Vous expliquez, Chris Herzfeld, dans vos livres, que cette primatologie a été amorcée par les savants des Lumières et que les recherches sur les grands singes se sont vraiment mises en place plutôt à la fin du XVIIIe siècle, hein, c'est ça ?
C'est cela, mais il y avait déjà eu des dissections faites par exemple par Tyson, qui restait une dissection tout à fait magistrale. On en a le livre et le compte-rendu à la bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, donc on remonte au XVIIe.
Mais même avant, au IIe siècle, je crois, par Galien.
Oui, tout à fait. Mais alors, c'est évidemment beaucoup plus éloigné, on n'a pas de rapport.
Oui,
mais
sûr.
On sait qu'effectivement, Galien a fréquenté des grands singes et en a disséqué. Mais au XVIIIe siècle, de grands débats se nouent sur la question du langage, sur la question... L'homme devient une question. Et à ce moment-là, justement, les explorateurs reviennent avec des récits tout à fait extraordinaires. On en trouve le résumé dans la note 10 du discours sur l'égalité de Rousseau, par exemple, où il résume tous les apports des voyageurs, des navigateurs, des médecins qui partent sur les bateaux en exploration. Mais les savants les mettent en doute, parce qu'il ne s'agit pas de spécialistes, il ne s'agit pas de naturalistes. En revanche, au XVIIIe siècle, les premières rencontres se font. Par exemple, Vosmar, qui s'occupe des ménageries du prince d'Orange aux Pays-Bas, fait installer la première femelle orang-outan qui arrive en Europe, à côté de ses appartements, afin de l'observer. Et qu'observe-t-il ? Quelque chose de tout à fait étonnant. Vous parliez d'imitation et de comportement qui nous touche. Eh bien, cette petite femelle se fabrique un oreiller. Elle met du tissu sur le sol, elle ajoute de la paille au centre de ce tissu et elle referme les quatre coins, puis va le poser délicatement sur sa couche. Ou alors, elle apprécie le bon vin, elle nettoie son enclos, enfin, elle fait toutes sortes de choses qui sont tout à fait fascinantes pour Vosmar. Plus proche de nous, en France, c'est Buffon, qui a connu sans doute deux chimpanzés, dont le célèbre Joko, qui a donné le nom générique de l'espèce. À ce moment-là, on parlait de Pongo pour les orang-outans et de Joko pour les chimpanzés. Parfois, on les confondait, on pensait que c'était des jeunes d'une espèce, etc. Il n'y avait que des jeunes qui arrivaient à ce moment-là, donc on les pensait assez petits. Et Joko a fréquenté Buffon. Buffon expliquait qu'il prenait de manière très, très raffinée le thé, qu'il était capable de se servir de cure-dents, de serviettes. Voilà le moment des premières rencontres.
Donc observation des objets aussi finalement, parce qu'à l'époque on parlait comme ça de curiosité, parce que on sent cette proximité, en même temps on en est effrayé, on l'imagine, comment estimer que ces animaux soient si proches de l'homme. Vous parliez des noms, à l'époque, on leur donnait des noms plutôt humains, d'ailleurs. Je crois qu'il y a toute une histoire autour des prénoms qu'on pouvait leur attribuer.
Oui, d'ailleurs, Florence consacra un chapitre de son livre à ces prénoms. Tout à fait, il y a des noms comme Édouard ou Jane donnés aux premiers singes. Et on n'avait pas du tout peur de l'anthropomorphisme. C'est un épouvantail qu'on a agité bien après et que les scientifiques ont agité et que tout le monde a intégré, y compris les soigneurs dans les eaux, qui ont toujours peur d'être trop anthropomorphiques, parfois à juste raison, d'ailleurs. Mais les prénoms étaient d'abord humains, assez logiquement. Et plus que cela, au début du siècle, plusieurs zoos mettaient en scène des scénettes lors du thé, par exemple, à Londres, les dîners de singes à Boston ou lors de l'apéritif à New York. Et ça ne les gênait pas du tout. Aujourd'hui, on se serait absolument refusé à cause de cet interdit d'anthropomorphisme et certains directeurs de zoos dirait on n'est pas au cirque ici. C'est ce qu'on a dit à Gérard Dousseau, le chef soigneur de la ménagerie du Jardin des Plantes, lorsqu'il a voulu donner à Toto un gorille de la ménagerie. Et il a voulu lui donner un pneu, parce que ce pauvre Toto était seul dans sa cage. Et Florence sait à quel point ce devait être une torture pour ce grand mâle, puisqu'ils sont éminemment sociaux et qu'ils vivent toujours avec une famille, des femelles, etc. Et là, il était tout seul. Il avait juste une chaîne pour se tenir, à laquelle il pouvait se tenir de la main, et rien d'autre, parce qu'on était dans une forme d'hygiénisme ambiant. C'était dans les années 70.
Mais oui, mais Florence Perroux, alors sur cette question-là, à la fois des prénoms et de comportement, parce qu'on sent sens qu'il y a eu donc autour de cette fascination, on les a mis en scène. Donc finalement, on en a fait aussi quelque part des devenirs humains.
Bien sûr, absolument. Mais au niveau des prénoms, il est vrai, bon, c'est peut-être un aspect un peu personnel qui, dans le livre qu'on a fait, parce que bon, c'est vrai que je me bats beaucoup au sein du parc dans lequel je travaille,
donc
et de manière plus globale, oui, pour qu'effectivement les prénoms que l'on donne aux animaux et en particulier pour les grands singes ne soient pas des prénoms trop proches de ceux que l'on peut donner à des humains, tout simplement. Et en même temps, ils ont besoin d'être nommés parce que ce sont des individus. On entretient des rapports proche avec eux, donc même si les animaux de zoo sont identifiés par des numéros, hein, à la base, ils ont des puces électroniques, qu'on soit un gorille, un fennec ou bien un boa constrictor, l'identification pour les parcs zoologiques est une identification électronique. Il est clair que pour les animaux emblématiques et de grande taille, le prénom est tout à fait nécessaire. Maintenant, je pense que ce n'est pas leur rendre hommage et que finalement de leur donner des prénoms très communs. Je pense qu'on peut les magnifier en essayant de faire un petit effort, se creuser un petit peu la tête et leur trouver des prénoms qui leur conviennent mieux.
Et on y arrive très
bien
aujourd'hui.
Si je peux ajouter quelque chose sur les prénoms, en réalité, Jane Goodall a été extrêmement critiquée lorsqu'elle a commencé ses recherches au début des années 60 à Gombe, en Tanzanie. Elle avait beaucoup de collègues masculins. Les femmes allaient sur le terrain parce qu'elles ne pouvaient pas faire carrière à l'université, elle pouvait se permettre d'aller plusieurs années sur le terrain. Et puis le paléoanthropologue qui les a envoyés là-bas pensait qu'elle serait plus patiente, plus douce, plus proche d'êtres sans langage comme peuvent l'être les femmes des petits-enfants ou des bébés. Et donc Jane Goodall a commencé à donner des prénoms qui commençaient tous par la même lettre lorsqu'il y avait une lignée, je pense à Flo et à Fifi par exemple. Et elle a été terriblement critiquée pour cela par ses collègues masculins parce qu'il ne s'agissait pas de science. En fait, quand on fait de la science, on doit être séparé de son objet afin d'assurer une certaine objectivité qui est le critère même de la scientificité. Et elle a eu beaucoup de problèmes à cause de cette question des prénoms.
Juste pour rebondir par rapport à ça, aujourd'hui, le cas donc de Jane Goodall, de Diane Fossey, de Birute Galdikas pour les orang-outans, aujourd'hui, je pense en 2012, serait impossible à reproduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme n'ayant pas de formation scientifique, biologique, primatologue ou quelle que soit la fonction scientifique que vous pouvez lui donner, ne pourrait pas partir sur le terrain et dire « je vais étudier ces animaux dans la nature ».
On ne les prendrait pas au sérieux.
Aujourd'hui, ce n'est plus possible.
Alors qu'elles ont ouvert la voie.
Ça a été dans les années 60 et je crois qu'on peut dire que Leakey était effectivement un visionnaire pour l'époque.
Louis Leakey, qui finalement les avait sélectionnées pour être ces femmes expérimentatrices quelque part. Puisqu'on parle de ce terrain de recherche, je vous propose d'écouter le premier document sonore de la Marche des sciences. Il s'agit d'un document qui date du 1er octobre 1951. Dans une émission sur la chaîne parisienne, on entendait Ludwig Karl Kohr. Et c'était une émission spéciale avec de nombreux enregistrements qu'il avait réalisés parmi les singes et notamment les chimpanzés.
J'ai pu enregistrer pas moins de 5 espèces de la famille très intéressante des gibbons, vivant dans l'Asie orientale, la Malaisie, Burma, Siam, l'Indochine, etc. Malgré que le gibbon est le plus petit parmi les grands singes, je le considère comme le parent le plus proche des hommes. En effet, ce singe est, je le crois, le seul parmi les mammifères qui peut réellement chanter. Comme l'homme, il marche sur 2 pieds. Ils vivent sur des arbres et grâce à leur lorique jambe, ils peuvent faire des sauts incroyables, impossibles pour un acrobate. Mais pour nous, c'est le langage qui arrête notre attention. J'ai observé les gibbons pendant une dizaine d'années et un bon matin vers 4 heures, j'ai pu entendre ces cris de salutation.
« Document sonore que nous avons retrouvé dans les archives de l'INA et donc qui date du 1er octobre 1951 à Ludwig Karl Korr et qui avait enregistré des heures et des heures différents singes. Il y a singes et singes aussi parce que là on entend ces gibbons, comme il dit, en pleine nature. Vous soulignez aussi, Chris Herzfeld, le fait qu'il y a les captifs, il y a ceux qui vivent dans leur environnement naturel. Et là, de la même façon, ce qu'on apprend de la recherche, finalement, n'est pas la même quand même.
Non, il y a très peu de primatologues qui s'occupent de faire des recherches in situ, ex situ. Par exemple, De Waal fait uniquement des recherches ex situ, c'est-à-dire en laboratoire. Mmh. Il est au Yerkes Institute à Atlanta. Mais il y a quand même des... Ou alors on a cité Goodall, Fossé et Galdikas qui ont mis en route, non pas les études de terrain, mais les études de terrain à long terme. Il y avait eu des études de terrain avant.
Avant, tandis qu'elle, finalement, c'est à partir des années... 60,
hein, c'est ça. Et puis les Japonais faisaient des études de terrain à long terme avant elles, mais pas sur des grands singes. Ils ont des singes au Japon et donc ils étaient déjà habitués dès la fin de la guerre à faire des études de terrain. Mais pour revenir aux Japonais, justement, Matsuzawa qui est quitté à Paris en novembre, justement, est un des rares primatologues à faire des études de très pointues de laboratoire avec des chimpanzés, notamment avec la femelle Aï et son fils, un mâle qui s'appelle Ayumo, mais qui est également en charge de recherche de terrain à Busu. Busu, où il a montré, par exemple, que les chimpanzés cassaient des noix. C'est assez rare. Mmh. Effectivement, ce sont des recherches différentes. Alors, est-ce qu'on peut parler de singes différents?
Et oui, parce que j'allais vous dire, finalement, depuis ces années, on parlait du 18e siècle qui était un tournant, bon, le 19e et le début du 20e. Finalement, on s'est mis à étudier, à les regarder, les observer plutôt dans des environnements clos. Donc, soit les zoos, soit dans l'environnement, les maisons de particuliers ou dans des dispositifs de recherche, c'est ça?
Absolument. Il était très périlleux d'aller sur le terrain. Les carrières se faisaient d'abord dans les muséums et la science se construisait à partir de cadavres. Tous les spécimens qu'on ramenait des pays lointains mouraient soit sur le terrain, soit lors du voyage. Et donc très peu, pour parler des grands singes, très peu arrivaient vivants sur le continent européen. Donc ce qu'on a mis en place, ce sont avant tout les recherches taxinomiques et on partait de mensurations. Et bien sûr, le crâne a une importance énorme, puisqu'on a comparé les volumes crâniens, etc. Il y a toute une idéologie du crâne, un élément symbolique tellement important pour l'homme rattaché à l'esprit. Et Stephen Jay Gould a d'ailleurs décrit tout ce processus et l'importance de la craniologie dans La malmesure de l'homme, paru chez Odile Jacob. Donc pendant longtemps, on a étudié plutôt des cadavres, ou alors c'était des singes déjà acculturés. Il leur suffisait de passer la traversée en bateau avec les humains pour apprendre à danser, à coudre, à allumer des allumettes. C'est bien décrit dans certains livres qui parlent de comportement humain, entre guillemets, des grands singes.
Vous dites juste, Chris Herzfeld, acculturés, parfois on parle de d'eux comme des singes dénaturés, je sais que ce mot vous ne l'aimez pas. En général, vous employez plutôt le mot conciliant, c'est-à-dire des singes qui ont été ou adoptés par les hommes ou qui se sont déjà imprégnés de leur univers et de leur façon d'être.
Oui, c'est un terme que j'ai forgé, la question de la conciliance, c'est-à-dire que quand des singes vivent à proximité d'humains, ils ne sont pas moins singes que ceux qui vivent in situ. Dans leur milieu naturel. Simplement, ils manifestent des qualités que tous les hominoïdés... Et je rappelle que dans les hominés, il y a non seulement les hominoïdés, il y a non seulement les quatre espèces de grands singes qu'on a citées, bonobo, chimpanzé, gorille et orang-outan, mais aussi l'homme. Il fait partie des hominoïdés. L'homme ne descend pas du singe, rappelons-le également, mais il partage avec les grands singes des ancêtres communs. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans une linéarité. Et donc, moi, ce que je défends, c'est l'idée que les grands singes partagent avec l'homme une plasticité comportementale tout à fait exceptionnelle. Donc, il faut réfléchir les grands singes par rapport aux dispositifs auxquels ils sont activement reliés. C'est-à-dire qu'un gorille qui se trouve dans le zoo de la Palmyre où travaille Florence, eh bien c'est un gorille qui doit tenir compte des ingrédients de son environnement qui sont éminemment humains. Il est entouré de plus d'humains que de gorilles, ce gorille-là. Les soigneurs, très importants. les visiteurs qui se pressent pour aller les voir et qui sont des milliers, et puis les directeurs de zoo, les vétérinaires, etc. Bref, beaucoup plus d'humains que de congénères. À tel point que je connais un gorille appelé Paki, que j'ai rencontré au zoo de New York, au zoo du Bronx, et que j'ai vu totalement bipède, pratiquement bipède. Elle savait, elle était capable de se tenir debout sur un tronc d'arbre. Je l'ai retrouvée au Louisville Zoo. Et j'ai vu également là-bas un orang-outan, Tek, qui passait son temps à 90% en bipédie. Or, on pensait que la locomotion était verrouillée par le biologique, ce qui montre qu'il y a un terrible degré de liberté, une flexibilité des habitudes soutenue par une plasticité du squelette, dans le cas de la bipédie, qui montre que les grands singes sont capables d'ouvrir le comportement au-delà du programme génétique.
Florence Perroux, par rapport à cette question justement des singes captifs, hein, Chris Herzfeld disait qu'ils avaient aussi, ils étaient au contact des soigneurs, bien sûr, mais j'ai lu aussi qu'on leur donnait des outils aussi pour les stimuler, des jeux tactiles, des tablettes, des jeux vidéo, la télé, c'est vrai que c'est devenu un peu un univers. Et puis la deuxième question que je voudrais poser, c'est est-ce que finalement aujourd'hui il y a une législation qui interdit par exemple d'avoir un grand singe chez soi ou qu'est-ce qu'il en est?
Alors juste pour rebondir sur ce que venait de dire Chris Herzfeld, je trouve ça formidable ce qu'elle a écrit dans son livre, justement, d'éviter de scinder en fait les grands singes captifs des grands singes naturels. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans le milieu dans lequel je travaille. J'entends de plus en plus dire que de toute façon, les animaux que nous avons en captivité n'ont plus rien à voir avec ceux qui vivent aujourd'hui dans le milieu naturel. Quasiment génétiquement, ce ne sont plus les mêmes animaux. Moi, je lutte contre cette idée-là. Effectivement, peut-être qu'à une échelle génétique, donc à une échelle très très longue, on pourra peut-être dire ça. Aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas le dire. Effectivement, je merci de l'avoir dit et de dire que ces animaux sont simplement font preuve d'une énorme flexibilité, donc une plasticité, comme vous le décrivez très très bien. Et donc non, ils ne sont pas séparés. Simplement, effectivement, le contexte dans lequel ils sont fait qu'ils vont développer des choses différentes, nouvelles, autres, mais effectivement, ils sont tout à fait
parce
similaires.
Parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont inventifs, voilà. C'est ce que vous montrez toutes les deux.
Absolument, et moi qui ai eu la chance de les voir aussi dans le milieu naturel, les comportements dont ils font preuve dans la nature et les comportements dont ils font preuve aux zoos sont similaires, ce sont les mêmes animaux. Alors après, il y a évidemment des différences dues au contexte, mais voilà, donc ça c'est une chose. Pour répondre à vos questions sur la législation, donc effectivement il existe une législation aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas posséder de grands singes chez soi, et heureusement. Par contre, cela n'empêche pas évidemment le trafic, le commerce illégal et des collectionneurs qui sont prêts à payer très cher pour avoir des animaux comme ça et donc qui entretiennent le braconnage en Afrique, notamment pour les gorilles et les chimpanzés. Donc voilà, même s'il y a une législation, ça ne veut pas dire...
C'est transgressé.
Ça peut l'être, en tout cas, même s'il y a des organismes qui luttent contre. L'autre question donc, était par rapport, effectivement, aux moyens que l'on peut donner aujourd'hui aux grands singes dans les parcs pour développer leurs aptitudes.
Oui, comme on dit, pour les stimuler.
Donc c'est vrai qu'il y a des choses très nouvelles qui se font, notamment outre-Atlantique, avec l'utilisation maintenant de tablettes, de choses très performantes. Bon, pour ma part, à la Palmyre, je n'ai jamais essayé ça, mais peut-être vais-je le faire dans pas très longtemps. Je suis assez curieuse peut-être de voir la réaction, notamment des deux jeunes gorilles que nous avons là, dont une petite femelle qui est particulièrement curieuse et avec laquelle j'aimerais beaucoup essayer ça. Donc nous restons plus traditionnels, je dirais, dans ce qu'on appelle l'enrichissement du milieu, hein, dont Chris Herzfeld parle aussi dans son livre, qui est quelque chose aujourd'hui de largement pratiqué par les zoos, enfin en tout cas autant que possible. Parce qu'évidemment, l'enrichissement du milieu, c'est bien, mais il faut aussi réfléchir à la sécurité des animaux, à la sécurité des soigneurs, à la sécurité des installations. Donc on ne peut pas tout donner n'importe comment, n'importe quand. Il faut réfléchir beaucoup parce que ce sont des animaux intelligents. Donc un enrichissement, ils peuvent vite s'en lasser aussi. Donc il faut sans cesse se réinventer, se renouveler. Les équipes aussi soignantes ont beaucoup de travail. Donc ça demande du temps, de la patience, des moyens donnés par l'institution. Mais effectivement, ce sont des animaux qui ont hautement besoin de stimulation et d'attention de la part des gens qui s'en occupent.
Alors on a parlé du devenir humain, on va y revenir, hein, mais il y a aussi le devenir singe, il ne faut pas l'oublier, ce sera le deuxième document d'archives sonores extrait des fonds de l'INA. On retrouve Ludwig Karl Kohr et il parle d'un enfant de 10 ans, c'est toujours ce document du 1er octobre 1951.
Je me souviens qu'une fois, un enfant de 10 ans a été retrouvé après avoir vécu parmi les babouins. Comme eux, elles marchaient à quatre pattes et parlaient seulement leur langage. Plus tard, visitant le jardin zoologique à Johannesburg, cet enfant se tapissait à la vue des babouins et avait une conversation avec ces animaux. Revenons à nos amatriades et voici leur conversation.
Kaiserswald, donc là, c'est cette question du devenir singe aussi, dans cette relation entre les hommes et les grands singes. On se rapproche presque des cas d'enfants sauvages. Hein.
Je ne dirais pas tout à fait cela. En réalité, effectivement, justement, au 18e, sont apparus des tas de cas d'enfants sauvages, justement au moment où on se posait la question anthropologique. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme devenait une interrogation, et par hasard, les enfants sauvages sont sortis de l'orée de la forêt, et on s'est demandé qui ils étaient, comment ils se faisaient qu'ils avaient eu un devenir sauvage. Mais quand je parle de devenir humain, en fait, et je fais écho à la notion de Deleuze et Guattari dans 1000 plateaux, d'un devenir animal. Je pense par exemple au chaman sibérien qui, lorsqu'il est en transe, devient véritablement un renne. Il n'imite pas un renne. C'est une notion très difficile à saisir, mais c'est une sorte d'appartenance à un groupe qui va au-delà d'une espèce, et il y a un devenir renne du chaman. Et j'ai parlé de devenir humain dans le cas spécifique des singes élevés dans les familles humaines dès le plus jeune âge, aux États-Unis, dans les années 60, lors des programmes d'apprentissage du langage des signes ou de langage humain sous forme iconique aux grands singes. Pour qu'ils puissent mieux apprendre ces langages humains, on s'est dit on va les mettre dans le milieu culturel lié à ce langage, et on les a introduits dans des familles à 8-9 mois, parfois un an.
Après, la question c'est que deviennent-ils à l'âge adulte,
ça, bien sûr. Il faudra en parler parce que c'est une grosse responsabilité. Oui. Ils sont arrachés à ce monde, et c'est vraiment un drame pour eux. Mais en attendant, quand ils sont petits, ils s'intègrent parfaitement. Grâce à la plasticité dont on a parlé là maintenant avec Florence, et ils connaissent un véritable devenir humain à tel point qu'ils se désignent même comme des humains. Je donne toujours le cas de Vicky, ce chimpanzé auquel on demande de classer des images. Elle met son père, Bocard, qu'elle n'a jamais vu et qui est évidemment un chimpanzé, parmi les éléphants, les girafes et les lions. Donc elle reconnaît les catégories et la catégorie des animaux. Elle classe son père là, mais sa propre photo. Premièrement, elle fait preuve de réflexivité, elle se reconnaît, mais de plus, elle se classe parmi les humains. Elle se désigne donc elle-même comme humaine, et comme elle n'a jamais vu de chimpanzé, qu'elle a toujours été élevée dans une famille, c'est assez logique.
Mais bien sûr,
mais pour certains, aussi, qui en voyant les
Florence
autres chimpanzés,
hein.
Exactement,
les a traités de
sales
bêtes noires.
Je donne aussi cet exemple, Black Box.
Voilà, c'est ça, exactement. Elle ne se reconnaissait pas en tant que chimpanzé, mais pas comme humain, puisqu'elle avait été élevée depuis toute petite.
Et Foote s'ajoute même qu'elle est raciste, parce qu'elle désigne les autres chimpanzés comme des sales bêtes noires.
Donc là, c'est toute cette question de la frontière franchie.
Donc, là, il y a un devenir humain, c'est comme ça que je parle de devenir humain, ce qui n'est pas un ensauvagement.
T'avais les mains comme des raquettes, pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé. Pépé, pépé, t'avais les yeux comme des lucarnes, pépé, comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres comme on regardait un chimpanzé. Chez les ferrés, Pépé.
Léo Ferré qui chante Pépé. Pépé qui était son chimpanzé et il lui a dédié cette chanson. Vous êtes sur France Culture, suite de la Marche des Sciences. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'histoire des relations entre l'homme et les grands singes. Et avec moi pour en parler, Chris Hersfeld, philosophe des sciences, artiste et spécialiste de l'histoire de la primatologie et des relations entre humains et grands singes. Et elle a écrit cette année deux livres. Petite histoire des grands singes, édité au Seuil dans la collection Sciences Ouvertes. Et puis le dernier sorti, Watana, un orang-outan à Paris, un très 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 beau récit autour de Watana, une belle aventure à découvrir, paru aux éditions Payot. Et Florence Perroux, responsable conservation et pédagogie aux Eaux de la Palmyre, et qui nous offre avec le photographe Sébastien Metz un très beau livre de photos avec des commentaires aussi. Et ce livre est intitulé Gorille, portraits intimes, paru aux éditions du Pommier. Alors là, on a compris que Léo Ferré avait donc eu ce chimpanzé dans sa vie, hein, au quotidien. Michael Jackson également, Elvis Presley, on pourrait comme ça en citer, des singes devenus stars, bien sûr. Et puis, il y a aussi ces pionniers de l'exploration spatiale. Allez, le dernier document sonore, je vais vous faire écouter, c'est pour prendre la mesure aussi de ce que l'homme a pu faire avec ces singes et de quelle façon est-ce qu'ils ont été des pionniers en matière scientifique.
Ham va bien. Ham, vous le savez, veut dire jambon, mais aussi dans l'argot américain, un cabot. Nous saurons si ce qualificatif est justifié quand le chimpanzé spatial, ou l'astro-singe, comme on dit déjà, apparaîtra à Cap Canaveral devant les micros et les caméras de la télévision. L'expérience classifiée MR2, R pour Redstone, a réussi. Peut-être même un peu trop, puisque la capsule est allée trop et trop loin, à 210 km du point où elle était attendue. Mais tout a bien fonctionné. Les parachutes ont ralenti la descente, le coussin pneumatique a adouci le contact avec la mer, l'émetteur a immédiatement fonctionné, la mer s'est aussitôt teintée de rouge et Ham, récupéré par un hélicoptère, a repris contact avec le monde terrestre sur le pont du Donner. Ham subira aujourd'hui des examens approfondis. Les premières constatations sont que le chimpanzé n'a pas souffert pendant les 18 minutes de son vol dans l'espace, qu'il n'a pas été incommodé pendant les 4 minutes où il a été arraché à l'effet de la pesanteur, et les techniciens disent « Nous sommes prêts ». Que va-t-il se passer maintenant? MR3, la prochaine expérience qui aura lieu sans doute en avril, sera l'envoi d'un homme sur une trajectoire balistique suborbitale.
C'était le journaliste Pierre Crenès qui nous racontait cette première aventure, premier voyage d'un singe dans l'espace, 1er février 1961. Ham, il y a eu toutes ces expériences, Chris Hersfeld, que vous racontez aussi dans vos livres. On pourrait parler des expériences dans les laboratoires médicaux, etc. Ces singes, bien évidemment, entrent dans cette relation aussi avec l'homme de par ces expériences menées.
Oui, il ne s'agit pas là de devenir humain parce qu'ils n'entrent pas du tout dans des familles. Non. Vous avez parlé de Ham. Deux singes chimpanzés ont été envoyés par la NASA dans l'espace, c'était Ham, mais surtout Enos. Enos est un cas très intéressant parce il faut dire qu'il subissait un entraînement, non pas d'apprentissage du langage dans une famille confortablement choyée avec des poupées, des jouets, etc. Pas du tout. Là, il s'agissait de conditionnement opérant, c'est-à-dire qu'il devait faire le bon geste, sinon il recevait ses singes. Plusieurs ont été entraînés, même si deux seulement ont été envoyés dans l'espace. Donc ces singes apprenaient les gestes. À bien faire les gestes, sinon il recevait des décharges électriques. Et ce qui s'est passé, Enos a été un véritable héros de la conquête spatiale, parce que le programme s'est complètement détraqué. Mais le singe, lui, ne s'est pas...
Laissé déstabiliser.
Il a continué à faire les gestes qu'il avait appris, alors que la machine lui donnait des mauvais signaux. Il a été véritablement un héros parce qu'il avait mal. Il continue à faire le bon programme. Ça, je pense que c'est important. Alors ça, c'est toute la question des recherches biomédicales, des recherches invasives, les vivisections, etc. On a pensé que le singe anthropoïde était effectivement un très bon modèle pour la recherche médicale. Par exemple, les femelles prennent la même contraception description que nous, dans les zoos. Claudine André me dit que ce sont des pédiatres qui s'occupent de ces bonobos. Mais ils ont horreur de ça, parce qu'il y a évidemment la frontière homme-animal, et eux disent « nous ne soignons pas des animaux ». Donc, en général, ils refusent de soigner des bonobos, alors que ce sont les mêmes médicaments, les mêmes soins. Et donc, cette proximité physiologique, physique, qu'on a toujours connue, hein, depuis l'Antiquité, avec l'homme, les a desservis, ces pauvres singes, parce qu'ils ont servi largement à des études extrêmement pénibles pour eux, et pas toujours efficaces. C'était pas toujours très, très juste de les utiliser pour ces recherches.
Qu'est-ce qu'on a appris à ce jour de la conscience de soi, déjà, Florence Perroux? On pourrait parler, et là je vois que l'heure tourne, mais on renverra nos auditeurs bien sûr vers vos livres à toutes les deux, mais on a compris qu'ils étaient inventifs, curieux. Il y a la notion de mère aussi, la question de l'instinct maternel. Mais le fait que ils ont une conscience de soi, ça c'est peut-être une des choses les plus importantes.
Ça effectivement, ça a été montré et démontré dans pas mal d'études. Nous en parc zoologique, on passe pas non plus nos journées à leur placer des miroirs dans les enclos, à essayer de déterminer s'ils ont une conscience d'eux-mêmes ou pas. Après, je dirais que ça dépend aussi encore une fois de l'individu et toujours du contexte beaucoup. Mais je crois que ce qu'on apprend d'eux, qu'on continue d'apprendre aujourd'hui, c'est l'extraordinaire richesse comportementale, finesse dont ils peuvent faire preuve, et je dirais qu'ils nous apprennent des choses tous les jours. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant quand on est à leur contact. Protégés, je tiens à le rappeler quand même. Hein, on n'est pas en contact direct avec ces animaux-là pour une question de sécurité, bien sûr.
En sachant qu'aujourd'hui, par rapport bien sûr aux époques qu'on a pu évoquer dans l'émission, aujourd'hui, il y a un véritable savoir-faire aussi des soigneurs, de ceux qui encadrent, des vétérinaires, des personnes qui sont au contact de ces grands singes captifs.
Ce sont des animaux particuliers, donc effectivement, les secteurs dans lesquels ils se trouvent déjà ne sont pas accessibles à l'ensemble du personnel du parc animalier pour des questions d'hygiène d'abord, puisque si pour ces animaux, effectivement, on utilise les mêmes moyens de contraception, les mêmes tests de grossesse pour les femelles que pour les femmes, ils sont aussi sensibles aux mêmes germes que nous. Donc pour éviter effectivement la transmission des maladies, ils sont des secteurs déjà à entrée restreinte. Et ensuite, les gens qui s'occupent d'eux sont aussi toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a des poules de soigneurs titulaires sur ces secteurs, quelques remplaçants, mais ce sont toujours les mêmes personnes. On n'utilise pas de soigneurs polyvalents pour s'occuper des grands singes, parce que les grands singes, ils ont besoin d'être en confiance avec les animaux, lapsus révélateur, avec les soigneurs qui sont dans leur quotidien tous les jours. Oui. Et donc ils ont, je dirais, un traitement particulier, un rapport particulier avec les gens qui s'occupent d'eux, c'est sûr.
Dans ces dernières minutes, je pense qu'on peut évoquer avec l'une et l'autre cette question de l'écotourisme. Basculons dans l'univers naturel, donc ces grands singes qui sont encore en liberté. L'écotourisme, je crois que Diane Fossé avait refusé cette issue. En même temps, on sait que c'est un moyen de les préserver, peut-être quand même, de sensibiliser les États et les politiques sur place pour investir et les sauver.
Je pense que Florence va mieux en parler que moi, mais effectivement, l'État rwandais a beaucoup plus à gagner à maintenir des gorilles vivants que des gorilles morts. Un gorille mort vaut beaucoup moins pour eux que les millions de dollars qu'ils génèrent grâce à l'écotourisme. Et donc, je pense qu'on arrivait de manière tout à fait naïve auprès des peuples africains en leur demandant, alors qu'ils étaient dans des conditions précaires, de sauver leurs animaux, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de le faire. Même pour quelques ours, en France, c'est difficile. Et là, on leur demande de préserver la nature. Je pense que l'approche maintenant est beaucoup plus pragmatique et qu'on leur montre qu'ils ont économiquement une raison de le faire. Matsuzawa expliquait lors de la conférence qu'il a donnée à Paris qu'il installait un dispensaire, une école chaque fois qu'il faisait un centre de recherche. Donc je pense que Florence pourra compléter mon propos, mais il est très important d'impliquer les populations locales dans ces programmes de sauvegarde des grands singes.
Florence Perrou.
Oui, c'est essentiel. Et puis, il est vrai que l'écotourisme, s'il est bien fait et bien encadré, parce que ça, c'est absolument indispensable, aujourd'hui, participe complètement à la protection des grands singes. Et dans le cas des gorilles de montagne, donc Diane Fosset, le recensement qui a été fait quand elle était encore vivante, donc il y avait à peu près 280 animaux. Aujourd'hui, on est à 786. Donc, effectivement, Diane Fosset était contre ça, mais Diane Fosset était une guerrière. Mmh. Elle était dans un contexte extrêmement difficile à l'époque, avec un braconnage intense, soutenu par les autorités à l'époque, puisqu'il fallait fournir il y avait des possibilités de fournir des individus dans des eaux européennes. D'ailleurs, deux gorilles de montagne à l'époque ont été envoyés en Allemagne. Mmh. Ils n'ont survécu que 2 ou 3 ans. Et fort heureusement, ça s'est arrêté après. Mais donc, elle était dans une démarche un petit peu extrême. Mais en même temps, voilà, c'est aussi son personnage. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on en est là aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr.
Pour les gorilles de montagne. Donc oui, l'écotourisme est indispensable.
Donc là, ça concerne l'Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo.
Pour les gorilles de montagne, oui, oui absolument. Sachant qu'il y a aussi au Congo donc deux groupes de gorilles des plaines de l'Ouest qui sont habitués. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué de les voir parce que le terrain, donc les gorilles des plaines de l'Ouest vivent en forêt de basse altitude, forêt souvent inondée, donc un terrain beaucoup plus compliqué d'accès. Alors que les gorilles de montagne, c'est plus facile. Enfin, tout est relatif parce que c'est en altitude et tout dépend des groupes que l'on va voir. Mais en tout cas, pour les gorilles des plaines de l'Ouest, aujourd'hui, l'écotourisme est pour l'instant encore relativement limité. Il est par contre beaucoup plus répandu en Ouganda, au Rwanda, pour les gorilles de montagne et au Congo, quand la situation politique le permet, ce qui n'est plus le cas depuis le début de l'année 2012, puisque les conflits entre milices ont repris et que donc le parc des Virunga se trouve dans une situation catastrophique à l'heure actuelle.
Donc mot de la fin, en tout cas pour cette émission de fin d'année, il faut repenser la place des singes, hein, captifs et autres, finalement. Merci mesdames, merci Chris Hersfeld, philosophe des sciences, je le rappelle, merci. Artiste, spécialiste de cette histoire de la primatologie des relations entre hommes et grands singes. Et vos deux ouvrages, il faut les citer, Petite histoire des grands singes, que l'on peut trouver au Seuil, hein, et puis Watana, un orang-outan à Paris, paru aux éditions Payot, Florence Perrou, un beau livre gorille, Portraits intimes, paru aux éditions Le Dupommier, et que vous avez commis avec le photographe et votre conjoint Sébastien Metz. Merci à toutes les deux. Et puis en matière de livres jeunesse, eh bien, on va en savoir tout de suite un peu plus. Et tout de suite, direction le monde des livres jeunesse. Bonjour Catherine Donné.
Bonjour Aurélie.
Alors, votre pêche?
Eh bien, une petite pêche avec un livre qui s'intitule « Au cœur de la nature avec le petit gorille ». Un livre de Suzy Esteras qui est paru chez Gallimard Jeunesse. Un splendide reportage photographique qui fait découvrir le bébé gorille dans son univers naturel, les forêts tropicales et subtropicales d'Afrique. Ce livre, aux photographies très bien choisies, raconte la vie d'un bébé gorille depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans où il est considéré comme un adulte. Le bébé gorille, il faut le rappeler, pèse environ 2 kilos à la naissance et c'est donc le même poids qu'un bébé d'humain. Il tète sa maman jusqu'à l'âge de 3 ans, mais son poids d'adulte sera, lui, d'environ 250 kilos.
C'est autre chose.
Donc, c'est autre chose. Hein. Donc, pendant ces 3 premières années, la maman gorille fera son éducation en matière de plantes bonnes à manger ou à éviter. Peu à peu, le bébé gorille gagne en indépendance sous le regard attentif de sa maman. À 4 ans, il sait comment se nourrir de racines, de jeunes pousses, de lianes, mais aussi d'écorce d'arbres. Il peut manger, Aurélie, une centaine de plantes différentes et avaler jusqu'à 18 kilos de nourriture par jour. Un gros gourmand. Et pour communiquer avec sa maman, mais aussi avec les autres gorilles, il utilise des sons étranges, des grognements, des cris, des aboiements et même des rugissements. Il aime se bagarrer avec ses frères et sœurs et ses cousins, puisqu'ils sont en famille, et il joue et il apprend à connaître ainsi les membres de sa famille. Tout cela semble bien ludique, mais l'auteur Aurélie nous rappelle que les gorilles sont menacés car les hommes les chassent et détruisent leur environnement. Donc je vous rappelle le titre de ce joli ouvrage pour les petits. Hein. On peut commencer à lire aux enfants de 4-5 ans, je trouve que c'est très bien. Au cœur de la nature avec le petit gorille de Suzy Esteras, paru chez Gallimard Jeunesse, moins de 15 euros.
Puis j'en profite pour vous signaler le dernier hors-série de Science et Vie Junior, sans mystère de la science, pour répondre à toutes ces questions que l'on se pose, alors souvent en famille, oui. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Qu'est-ce que la conscience? Pourquoi les zèbres sont-ils rayés? Je vous pose pas la question, hein, Catherine. Y a-t-il de la vie ailleurs que sur la Terre? Pourquoi vieillit-on? Voilà, vraiment toute une succession de questions. C'est utile, c'est ludique et conseillé, peut-être encore plus en cette période de vacances pour passer un bon moment. Toutes les références et les liens sont sur le site www.franceculture.fr à la page de la Marche des Sciences. Et on reste ensemble, bien sûr, dernière partie de la marche, séquence actualité et carte blanche. Et en ce quatrième jeudi du mois, place à la carte blanche de Catherine Decopé. Elle a choisi ce mois-ci de vous faire découvrir les premiers pas d'une recherche originale autour de plafonds peints datant du Moyen-Âge. Alors il s'agit de peintures que l'on a retrouvées ces dernières années sur les plafonds de maisons médiévales, principalement dans le Languedoc-Roussillon, grâce au soutien de la DRAC. Des peintures colorées, souvent intactes, qui ont traversé les siècles parce qu'elles étaient cachées sous des faux plafonds ou dans des couches d'enduit. Et elles nous apprennent qu'à la fin du XVe siècle, toute une iconographie domestique et populaire s'est développée. Et si les premiers travaux sur ces plafonds remontent aux années 1970, eh bien ce n'est que dans les années 2000 que cette recherche a pris son essor, à l'instigation notamment de Monique Bourrin, professeure d'histoire du Moyen-Âge. Aujourd'hui à la retraite, vous allez l'entendre, les images retrouvées ont de quoi surprendre, des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des histoires crues, voire obscènes. Et oui, alors sans plus attendre, bien partons sur le site dans l'Hérault, le site de Capestang, grâce aux analyses de Monique Bourrin, mais aussi aux analyses de Pierre-Olivier Dietmar. Il est historien de l'art, spécialisé dans l'anthropologie des images au Centre de recherche historique de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris que Catherine Decopé les a rencontrés.
La première chose qu'on voit, c'est sans doute une alternance de couleurs. C'est des plafonds qui étaient extrêmement colorés, avec souvent des alternances de rouge, de bleu, de rouge, de vert. Donc on a tout un facettement de couleurs qui allait avec ce qui se passait aussi sur les murs, où il y avait des tapisseries, avec des motifs souvent très chargés, sur les sols également. Donc c'est une décoration très vive, très, très chargée.
Et les poutres également ?
Les poutres voilà, sont également chargées de motifs. Là aussi, je vois sur des alternances chromatiques très, très vives. Et au milieu de tout ce chatoiement, il y a des images qui racontent des histoires ou qui montrent des personnages et qui sont des points d'intensité, disons, dans le décor, et qui sont aussi des endroits où peut se donner l'identité de la personne qui a commandé ce plafond de façon plus claire. Donc c'est des images qui sont assez petites, mais qui sont situées juste sous plafond, inclinées vers le sol, donc on les voit très bien quand on est depuis le sol. Et le fait qu'elle soit située en séquence entre les poutres donne des dimensions qui fait penser à la bande dessinée aujourd'hui de petites vignettes qui peuvent se succéder pour faire des micro-histoires.
Monique Bourrin, là on est face à une dizaine d'images qui provient donc du site de Capestang. Ces images ont été découvertes relativement récemment ?
Oui, c'était celles qui étaient cachées sous le faux plafond, ce qui explique que la couleur en soit particulièrement vive. On savait qu'elles existaient parce que l'un des Capestanais avait, au péril de sa vie, grimpé sous le plafond. Donc on en avait une idée photographique, mais on les a découvertes donc en 2008 seulement.
Pierre-Olivier Dietmar, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que vous pouvez nous dire simplement déjà ce qu'on voit, peut-être, en quelques mots?
Peut-être on peut dire où est-ce qu'on se trouve, parce qu'on se trouve juste au-dessus de la cheminée de cette pièce. Qui est normalement l'endroit le plus honorifique, l'endroit où le maître des lieux, qui était donc l'archevêque de Narbonne, devait effectivement se situer peut-être lorsqu'il venait résider ici. Et on a face à nous des images qui sont surprenantes pour la maison d'un ecclésiastique, puisqu'on a deux hommes visiblement en train de combattre, on a un couple d'amoureux, un être, une créature fantastique, on a un fou qui montre ses fesses, et face à lui, il y a un homme en train de souffler dans une trompette. Ces deux images fonctionnent ensemble, puisqu'il y a une espèce de lutte des souffles entre le pet du fou et le souffle de la trompette. Et c'est des images qui renvoient à un rituel connu dans la région, qui est un rituel du carnaval, qui est la danse des souffles à cul, où on fait ce genre de choses. Ensuite, il y a une image qui est très étonnante pour nous, qu'on n'explique pas encore vraiment, qui est l'image d'un homme en train de faire un geste, sans doute proche d'une bénédiction, face à un escargot qui le regarde. C'est une image qu'on ne comprend pas pour l'instant. Encore un couple d'amoureux. Et puis, on a un chien en train de poursuivre un lapin.
Alors, quand vous dites un chien en train de poursuivre un lapin, il y a deux images, en fait.
Voilà. Donc, on a deux closoirs qui sont séparés. Il y a sur un chien en train de courir, et face à lui, un lapin qui se retourne et qui regarde en direction du chien.
Alors, que comprendre du sens de ces images-là pour un archevêque? Il n'y a aucun symbole ecclésiastique, religieux, Monique Bourin?
Non, il y en a objectivement très peu, quatre finalement. En revanche, presque dans chaque image, il y a un message moral. Ce message moral qui est incarné notamment par l'hybride à tête d'humain et à corps animal et qui rappelle en permanence que l'être humain est un être qui est pris entre les instincts animaux et l'âme.
Est-ce qu'il y a des plafonds donc, que vous avez étudiés où là on se demande vraiment pourquoi telle image dans telle maison, Pierre-Olivier Dittmar?
Il y a plusieurs cas qui nous intriguent beaucoup. Bon, c'est quand même le cas à Capestan. C'est pas évident de savoir pourquoi on représente des hommes en train de péter au plafond d'un archevêque.
En même temps, vous dites que c'est une coutume locale. Alors est-ce que c'était une manière de dire j'appartiens à ce territoire par exemple?
C'est peut-être ça, c'est peut-être quelque chose qui le faisait rire. Et l'humour a beaucoup d'importance dans la culture médiévale. On n'a pas du tout de problème avec ça. On est heureux de mettre des images qui font rire les visiteurs. C'est une façon agréable de les accueillir. Et les images de chasse, c'est intéressant aussi parce que théoriquement, l'archevêque n'a pas le droit de chasser. Mais c'est le sport favori, disons, de l'aristocratie. Et là aussi, il s'inscrit dans une logique qui est familiale, qui est pour montrer son rang. D'ailleurs, peut-être chassait-il, j'en sais rien. Ça oblige en tout cas, et c'est un des bons exemples de l'intérêt de ces images pour nous, à reconsidérer de façon assez radicale qu'est-ce que c'est un curé à la fin du Moyen-Âge, et défaire des clichés qui nous viennent souvent du 19e siècle pour penser une situation sociale qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait avant. Mais...
Pierre-Olivier Dittmar, il y a l'idée de se distinguer par ses plafonds. Et alors vous allez même jusqu'à dire qu'il y a cette idée de réseau social médiéval.
Oui, parce que la question était quelle est la nature du lieu où on montre ces images-là. Et donc c'est un lieu qui n'est pas un lieu public puisque ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas non plus un lieu complètement privé, un lieu de l'intimité comme le serait à l'intérieur du 19e. C'est un espace où on reçoit des gens, c'est un lieu de réception, un lieu de représentation, mais on reçoit des gens qui sont privilégiés, que l'on laisse entrer. Et cet espace intermédiaire me fait penser effectivement aux pratiques sur les réseaux sociaux, sur Facebook aujourd'hui, où on présente son identité à des cercles relativement restreints, mais qui sont choisis. On va présenter, comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui, des choses qui éventuellement nous font rire, des gens que l'on reconnaît comme étant des modèles. Donc on va retrouver ici les armes du duc de Bretagne, du roi de France, donc des grandes personnalités qu'on n'a pas rencontrées. On peut également montrer son réseau social, ses amis, par des armoiries. Donc c'est les amis de la famille qu'on va représenter, avec qui pour montrer aussi la force de son réseau. Ces différents éléments font effectivement penser à ce qui se développe depuis quelques années sur les réseaux sociaux.
C'était un reportage de Catherine Decopé. Merci à Pierre-Olivier Dittmar et Monique Bourin. Et puis sachez que parmi les images les plus surprenantes de ces plafonds, on en trouve une qui représente une prostituée en train de se raser le pubis. Mais alors le plus surprenant, c'est que cette image a été découverte dans un ancien presbytère. Voilà, beaucoup de mystères à comprendre encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces images, les voir aussi, rendez-vous sur le site de la Marche des Sciences, franceculture.fr. Et vous trouverez des liens vers les travaux des chercheurs. Et puis l'émission, vous pouvez la télécharger pendant un an et l'écouter. Écoutez, pendant 1000 jours, elle est ouverte aux commentaires. Et c'est la fin de ce dernier numéro de la Marche des Sciences 2012. La semaine prochaine, c'est Rosaline Franklin, oubliée de l'histoire de l'ADN, que nous remettrons sur le devant de la scène, en compagnie de l'académicienne Nicole Ledouarin et avec Carole Écoffet, chargée de recherche CNRS à l'Institut des sciences des matériaux de Mulhouse. Merci à Pascal Rayet, qui officie à la réalisation, à la technique aujourd'hui Yanis Djoudad. Et demain, 14h, bien sûr, Michel Berganti pour Sciences Publiques. Et dans quelques minutes à 15h, rendez-vous avec Antoine Garapon et Le Bien Commun. Et avant de nous quitter, Eh bien, merci de votre fidélité, de vos réactions. Et au nom de toute l'équipe de la Marche des Sciences, Catherine Donnet, Céline Duchesnay, Catherine Decopé, Anaïs Morales et Alina, Catherine Louis et Marthe-Laurent Clotilde, eh bien, on vous souhaite une très belle fin d'année et que des bonnes choses à venir pour 2013.